Europe Soir Weekend,
Jeanne Baron.
18h34 sur Europe 1, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Emmanuel Macron a-t-il encore les cartes en main pour bien gouverner? Après les 100 premiers jours de son nouveau quinquennat, quel bilan tirer? Pour en parler, en débattre avec moi en studio, Benjamin Morel, bonsoir. Maître de conférence à l'Université Paris 2 Panthéon, Assas William T, bonsoir.
Bonsoir.
Président du think tank Le Millénaire, on peut aussi dire centre de réflexion.
Cercle de réflexion.
Voilà, c'est bien d'utiliser parfois le français, n'est-ce pas? Michel Taube, bonsoir, fondateur d'Opinion Internationale. Sabrina Agresti-Roubache, députée Renaissance des Bouches-du-Rhône. Messieurs, dames,
bonsoir.
Avant de commencer ce débat que j'espère animé, vous connaissant, écoutons ensemble cela.
Je veux pouvoir, à vos côtés, aborder les 5 années qui viennent. Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective d'une méthode refondée pour 5 années de mieux au service de notre pays, de notre jeunesse.
5 années de mieux au service de notre pays, de notre jeunesse, Benjamin Morel. Un bilan en demi-teinte.
C'est pour l'instant un bilan en effet en demi-teinte, mais c'est un bilan très très précoce par rapport à ce premier début de quinquennat dont on voit qu'il a tout de même été marqué après les élections législatives par une forme de tâtonnement. Dans l'extrait que vous venez de diffuser, on a l'annonce d'une nouvelle méthode. Alors c'est un extrait qui date de avant les élections. Donc on a évidemment toujours chez Emmanuel Macron cette volonté de se renouveler par la méthode. On l'a vu au moment du grand débat, on l'a vu également au moment de la crise Covid, etc. Est-ce que vraiment la méthode a été renouvelée? On peut en douter. Mais cette idée d'inclure beaucoup plus largement les différentes forces sociales du pays pour valider une politique qui, en règle générale, est déjà un peu prévue à l'Élysée, c'est quelque chose qui est assez marquant dans la démarche à chaque fois d'Emmanuel Macron. Là, la grande, je dirais, différence avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez des forces politiques qu'Emmanuel Macron doit entraîner dans son siège. Mmh. Et on a vu ce premier début de bilan, il est à faire au regard de cette nouvelle configuration du Parlement. Pour l'instant, le bilan n'est pas mauvais. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier que la Constitution de la Ve République est écrite par Michel Debray pour gérer ce type de situation. Il faut également voir que les différents groupes politiques au Parlement, pour l'instant, n'avaient pas intérêt à rentrer dans une posture qui soit une posture de pur blocage. Donc on a un bilan qui n'est pas si mauvais. Les projets de loi sont en règle générale passés. La plupart des amendements de l'opposition ont été rejetés ou ceux qui sont passés n'ont pas modifié substantiellement les textes. Mmh. À voir ensuite ce qui va en être dans les prochains mois, parce que, évidemment...
Une rentrée très chargée. Hein.
Une rentrée très chargée avec des textes probablement beaucoup plus clivants. C'est-à-dire que les deux grands dangers actuellement pour le gouvernement, c'est de ne pas parvenir à réunir une majorité, que ce soit avec LR ou avec différents groupes d'opposition, et de voir sa propre majorité relative se cliver, se scinder sur certains textes. Et là, encore une fois, il est encore très très loin de la coupe aux lèvres pour que ça n'arrive pas.
Alors justement, William T, ensemble, c'est cette coalition d'Emmanuel Macron, Renaissance, Modem, Horizon, etc. Ils sont encore ensemble. Juste avant, nous étions avec Laurent Marcangeli. On peut se poser cette question. Ensemble, est-il ensemble?
En fait, les différents partis sont à la fois concurrents et solidaires.
Ça, c'est incroyable.
C'est-à-dire qu'en fait, ils sont concurrents parce que chacun pense déjà à la succession d'Emmanuel Macron. Mais malgré tout, ils sont solidaires parce que si Emmanuel Macron échoue, ils n'ont aucune chance pour la suite et ils ne veulent pas détruire le peu de capital politique qui leur reste. Parce qu'en fait, il y a une question qui se pose lors de ces élections législatives, c'est est-ce que le macronisme est-il mort ou pas? En fait, on n'en a aucune idée à l'heure actuelle et on ne peut pas le savoir.
Ça, vous n'avez pas la réponse aujourd'hui.
Pour l'instant, je pense que même Benjamin n'a pas la réponse. C'est en doute, c'est en suspens.
Donc, faudrait-il en plus définir ce qu'est le macronisme?
C'est ça.
Il faudra le définir. Ce que moi je vois sur Emmanuel Macron, c'est qu'il a eu des premiers jours après sa réélection qui étaient très compliqués jusqu'aux élections législatives. Et petit à petit, lui et Elisabeth Borne sont en train de reprendre la main, notamment parce qu'ils sont plus actifs. Moi je pense qu'en fait ils ont un mandat, et notamment Emmanuel Macron a été élu pour ça, c'est sur la question de la gestion de la crise. Il faut se rappeler qu'il a été élu sur une gestion de crise de l'Ukraine, la passion de la crise en Ukraine qui a tué en fait ses différents rivaux, donc Éric Zemmour, Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Et pour l'instant, en fait, les oppositions acceptent les textes d'Emmanuel Macron sur des textes de crise. Crise du pouvoir d'achat, crise énergétique et les différentes crises. Par contre, là où Emmanuel Macron est dans une situation compliquée, c'est sous tous les textes de projection et de construction de ce qu'il appelle l'avenir pour la jeunesse. Sur la question de la réforme des retraites, je ne suis pas sûr qu'il ait un mandat. Sur la question de la réforme de l'éducation nationale, il est très contesté également. Et sur tous les textes de projection, c'est assez compliqué. Donc je pense qu'Emmanuel Macron arrivera à coaliser tout le monde sur les questions de crise, parce que de toute façon, les oppositions ne veulent pas se retrouver à se mettre à dos l'opinion publique. Mais ensuite, après, pour bâtir un avenir, c'est plus inquiétant. Et donc du coup, moi je synthétise ça, c'est qu'Emmanuel Macron, on pensait que c'était le nouveau président du 21e siècle, le premier président du 21e siècle. J'ai plus l'impression que c'est un président de transition avant l'arrivée de quelqu'un pour faire émerger, faire entrer définitivement la France dans le 21e siècle.
Michel Taube, est-ce qu'on est ici dans une gouvernance qui n'est ni à gauche, ni à droite, ni au centre? et qui est dans cette gouvernance du « et en même temps ». Je m'explique. On a l'aile gauche qui est en train de se dessiner avec Sacha Houlier qui dit « le droit de vote des étrangers ». On a l'aile droite avec Gérald Darmanin qui dit « les OQTF, on les applique, nouvelle loi immigration ». Si vous ne me suivez pas, je changerai la loi. Bon, on a du mal à comprendre en fait où on va. Est-ce que vous pouvez nous éclairer?
Moi, je pense que le en même temps macronien, c'est la quintessence du centrisme. J'ai toujours pensé qu'Emmanuel Macron avait réussi ce que Valéry Giscard d'Estaing n'avait pas su faire dans les années 70, à savoir effectivement doter la France d'un centre assez puissant. Mais bon, pour répondre à la première question sur le bilan de ces plus de 100 premiers jours d'exercice du pouvoir, et ça nous donne un peu le ton de ce qui s'annonce pour la rentrée, je dirais que, bon, à part l'extrême lenteur avec laquelle le chef de l'État a pris les choses en main, rappelez-vous combien il a pris le temps en fait de nommer un premier ministre, de rentrer dans les pas du deuxième quinquennat. Mmh. Je pense qu'en fait ce vers quoi l'on va, c'est contrairement à ce que nous craignions tous les premiers jours de l'issue des législatives, à savoir une France bloquée sur le plan politique. Non, effectivement, on va entrer dans une forme de cohabitation inédite entre l'exécutif et le Parlement, donnant notamment plus de pouvoir au Sénat, ce qui est finalement une bonne chose dans le fonctionnement de la Ve République, parce que cela va obliger effectivement l'exécutif à plus discuter, à plus mettre d'eau dans son vin sur des projets où il est parfois un petit peu trop sûr de lui. Alors est-ce que c'est ça la nouvelle méthode? Enfin, honnêtement, c'est une méthode que le chef de l'État n'a pas choisie, mais qu'il subit par le résultat des élections législatives. Et la deuxième chose que je vois venir, c'est qu'en fait, on l'a vu sur le projet de loi pouvoir d'achat, et je suis d'accord avec William Tay, c'était une loi de circonstances liées à une urgence. Mais je pense que la Macronie va gouverner avec des majorités à la carte. Une fois avec la droite, notamment pour la LOCMI, vous savez, ce projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur qui doit venir très très vite à l'Assemblée nationale. Et puis parfois, peut-être un peu plus à gauche sur des projets. Bon, alors, évidemment, des Sacha Houlier qui voudraient carrément réintroduire le droit de vote pour les étrangers, il peut toujours essayer de diviser sa majorité en prenant 150 macronistes et 150 NUPES pour avoir une majorité forte, originale et audacieuse. Non, mais là, on n'en est pas là. Je pense qu'il n'y a pas encore de frondeur dans la majorité macronienne. Ça viendra plus tard, plus on se rapprochera de l'échéance de 2027.
Quand même, l'impression qu'Horizon n'est pas forcément dans la majorité macronienne.
Je pense qu'on ne peut pas encore dire. Ce que vous dites n'est pas tout à fait vrai encore. Je pense que ça peut venir assez rapidement, mais pour le moment... On en a quelques signes avant-coureurs, mais je pense que pour le moment, il va y avoir des majorités à la carte.
On va poser la question, Michel, à Sabrina Agresti-Roubache, qui est députée Renaissance des Bouches-du-Rhône. Madame, est-ce que vous vous sentez plus unique que jamais, ou est-ce qu'au contraire, vous commencez à percevoir les disparités?
Non, pas du tout. Non, moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit juste à l'instant. Au contraire, une vraie cohésion d'équipe. Moi, c'est mon premier mandat. Ce que je vois, c'est que l'Assemblée représente vraiment ce pour quoi les Français ont voté. Donc, les Français nous ont demandé, il me semble, moi, je l'ai vu pendant ma campagne, d'être ouverts, de discuter, et même si on me l'accordera, les électeurs veulent beaucoup de choses qui se contredisent. J'ai beaucoup entendu, on ne voit pas assez les élus, on ne vous voit que pendant les élections, mais à la fois ils sont capables de voter pour des gens qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais vu et qu'ils ne verront jamais.
Vous avez un exemple concret de ce que vous nous dites?
À Marseille, la candidate RN qui était contre moi, personne n'a jamais vu, elle n'a pas fait campagne, je l'ai battue de 700 voix. Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, qui est né en plus, il est élu dans ma circo de naissance, la 4e circo de Marseille. On ne l'a jamais vu, n'a jamais rien fait, et Bompard a été élu.
Mais Madame Agresti-Roubache, lorsque vous dites que les gens sont pleins de contradictions, ils veulent à la fois des choses et d'autres choses, mais est-ce que le message, en vérité, c'est pas la contradiction? Est-ce que le message des gens, là, c'est on n'est absolument pas d'accord avec ce que vous nous avez proposé pendant 5 ans, on préfère encore voter pour quelqu'un qu'on n'a jamais vu?
Écoutez, c'est
probable. Et pour le coup, c'est pas une contradiction.
J'allais y venir. Non, C'est pas, alors non, quand je vous dis c'est des contradictions, parce que le mot je l'ai entendu, et ces mots-là je les ai entendus tout le long.
D'accord.
Moi je suis quelqu'un qui débat, en plus c'est mon premier mandat, donc j'essaie de comprendre. Et pour revenir à votre question initiale sur le Parlement, je trouve les débats, alors c'est vrai que les LFI font beaucoup d'obstruction, mais in fine on réussit à faire passer nos textes, et je suis, moi en tout cas, et je l'ai dit, je l'ai même écrit, le camp qui a perdu ou les camps qui ont perdu n'ont pas tort sur tout, et nous n'avons pas eu raison sur tout. Donc au contraire, je trouve que c'est un Parlement passionnant, c'est probablement un moment historique pour la France, probablement de transition, je crois que l'un des invités le disait, et je ne vois pas ni de scission ni de fronde, mm-hmm. Je vois de la discussion. Vous voyez, on part de Gérald Darmanin avec la LOPMI, donc il y aura, en plus de ça, on n'a pas parlé de la loi sur l'immigration, à Sacha Houlier sur le vote des personnes.
Du droit de vote des étrangers,
grand écart. Mais moi, regardez, je suis une fille d'immigrés. Mon papa était, il est né en Algérie, il est arrivé en 67 d'Algérie, il a toujours eu une carte de résidence.
Ouais.
Et mon père me répondait vraiment, je lui disais, pourquoi ça ne t'intéresserait pas de voter? Si je veux voter, je demande la nationalité française. Donc vous voyez, donc le débat est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut imaginer. Mmh. Donc moi, je refuse déjà qu'on nous mette dans des cases, qu'on mette, toutes les bonnes idées sociales ne sont pas forcément à gauche, vous voyez ce que je veux dire? Et puis les bonnes idées sécuritaires ne sont pas forcément à droite. Donc voilà, je pense que nous allons vivre 5 ans vraiment très, très, très importantes pour le pays, mais très instructives.
Benjamin Morel, on redécouvre ici la démocratie.
On redécouvre en tout cas un système parlementaire avec un Parlement qui vit en réalité. Il faut voir que dans la plupart des pays européens, puis sous les 4e et 3e républiques, il n'y avait pas de majorité absolue, pléthorique, disciplinée, comme on les connaît en réalité depuis 1962. Mmh. Et donc aujourd'hui, avec ce Parlement beaucoup plus pluriel, on connaît ce que connaissent tous nos voisins, ce que connaît l'Italie, ce que connaît l'Allemagne, ce que connaît même dans certaines périodes la Grande-Bretagne, c'est-à-dire un Parlement où il faut construire des coalitions de manière plus ou moins structurelle ou de manière plus ou moins ad hoc. Et le problème, entre guillemets, le problème n'est pas lié à nos institutions, le problème n'est même pas lié à cet état de fait, le problème est lié en réalité à une culture politique qui est assez peu habituée justement à ce type de circonstances et à des acteurs politiques qui doivent prendre leur marque dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas et qu'ils n'ont pas connu. Et par rapport à votre question sur les dissensions au sein de la majorité, je dirais qu'il y a 3 menaces pour cette majorité.
Lesquelles sont-elles ?
La première menace, c'est peut-être en réalité les ambitions personnelles. Emmanuel Macron ne peut pas se représenter. Et comme il ne peut pas se représenter, si vous êtes un député cohérent qui veut, lui, être réélu, il faut voir qu'en règle générale, les présidentielles étant suivies des législatives, celui qui emporte les présidentielles a, sauf la dernière fois, de grandes chances ensuite d'impulser une dynamique législative. Si vous êtes un député que vous voulez être réélu, il faut trouver un bon cheval pour les présidentielles. Ça ne peut pas être Emmanuel Macron. Quel sera le prochain cheval de cette majorité ? Est-ce qu'il s'appellera Édouard Philippe, etc. Là, il peut y avoir une première source de dissension. Le deuxième risque, c'est en réalité qu'il y ait tout bêtement au sein de la majorité des tensions qui soient des tensions politiques. Prenons le projet de loi promis par Gérald Darmanin. Si vous êtes,
on le rappelle, le projet de loi sur l'immigration.
Sur l'immigration. Mmh. Si vous êtes un député élu en 2017 dans une circonscription de centre-gauche, à l'époque, ces circonscriptions sont des circonscriptions en or pour La République En Marche. Elles deviennent des sièges éjectables en 2022, tout bêtement, parce que l'électorat macroniste a évolué profondément. Et donc, si vous êtes passé à 200 voix près contre un candidat de droite et que tout d'un coup, vous avez un ministre qui vous fait un projet de loi qui, s'il passe, passera aux conditions de LR, qui est majoritaire au Sénat, ça a bien été dit par Michel Taub, LR aujourd'hui a notamment, à travers le bicamérisme, les clés sur beaucoup de projets de loi. Est-ce que vraiment vous allez pouvoir assumer ce projet de loi face aux électeurs? Je rappelle que lors de la dernière législature, le projet de loi Asile et Immigration de Gérald Collomb avait été la première épreuve pour cette majorité. C'était un moment de clivage très très fort. Et le troisième enjeu de cohésion pour cette majorité, ça va être la force de blocage de l'opposition. Quand vous regardez les phénomènes d'obstruction qui ont fonctionné dans l'histoire, ils ont toujours 3 piliers. Le premier pilier, c'est une opposition qui sait faire de l'obstruction. La NUP, elle l'a montré, c'est faire de l'obstruction. C'est-à-dire, c'est bloquer les débats. Mais l'obstruction pour l'obstruction au Parlement, ça ne sert à rien. L'obstruction, ça sert à faire monter la mayonnaise dans la rue. Et ça, c'est le deuxième pilier. Si jamais vous avez des forces sociales qui sont capables d'enclencher une dynamique dans la rue, à ce moment-là, ça peut devenir profondément problématique. On l'a vu sur le projet de loi des retraites la dernière fois. Le troisième pilier, c'est une majorité qui se divise. Mmh. Et là, il n'y a même pas de majorité absolue. Et évidemment, il y a des forces de division. Si demain, vous avez une montée en puissance dans la rue et une opposition qui fait de l'obstruction, combien de temps tiendra cette cohésion de la majorité? C'est pas si évident, d'où le danger.
Autre danger ou pas, dites-nous, William T. Est-ce que ce sont des alliances qu'on n'aurait peut-être pas vu venir? Explication. Du côté d'Horizon, on est censé être dans cette grande coalition ensemble. En revanche, ils ne sont pas contre-votés à l'extrême droite ou à l'extrême gauche ou même au centre, si cela pouvait, pour reprendre leurs propos, servir les Français et la France. Est-ce que ce n'est pas révélateur d'une autre façon de voir la politique, en tout cas d'espérer gouverner?
Pour parler d'Horizon, en fait, Horizon, de toute façon, pour l'instant, ils sont obligés d'exister. Et pour exister, il faut à la fois être solidaire du président de la République et en même temps se démarquer pour dire en même temps on était différent, on n'est pas comptable de tout. Et si possible, Édouard Philippe dira « Moi, je voulais aller plus loin, mais Emmanuel Macron, ce pauvre méchant, m'a empêché d'aller plus loin. Mais si moi, j'étais au pouvoir, notamment président de la République, j'aurais pu aller beaucoup plus loin. » Et je pense que c'est là toute l'équation d'Édouard Philippe. Il a un peu la même équation que François Fillon par rapport à Nicolas Sarkozy lors du précédent quinquennat. Et c'est là la difficulté qu'il a essentiellement.
Il avait pris beaucoup de points, hein, François notamment. Fillon, avant l'affaire qu'on connaît.
Et quand vous comparez les deux, en fait, François Fillon existe par rapport à Nicolas Sarkozy parce qu'il est plus calme que le président de la République de l'époque et Édouard Philippe est plus calme que Emmanuel Macron et c'est comme ça qu'il existe. La question qui est posée sur la succession d'Emmanuel Macron, c'est qu'en fait ils ont tous des qualités mais il n'y en a aucun qui se démarque. Édouard Philippe est populaire mais il n'a pas...
Vous êtes sûr de vous ?
Je suis sûr de moi. En fait il n'y en a aucun qui se démarque dans la mesure où ils ont tous des qualités, ils ont tous des défauts. En fait... Édouard Philippe est populaire dans l'opinion, mais il est impopulaire auprès de La République En Marche, auquel il le déteste foncièrement. Je suis assez sûr de mon cas, et notamment de la part des Mormons, c'est-à-dire les historiques d'Emmanuel Macron, qui ne peuvent pas le voir. Bruno Le Maire est un peu moins populaire dans l'opinion publique, mais un peu plus accepté au sein de La République En Marche. Gérald Darmanin, lui, il a tous les deux défauts, donc il est détesté au sein de La République En Marche.
En même temps, Gérald Darmanin a peut-être un espoir pour 2027. Hein.
Il peut essayer, mais en tout cas, c'est difficile de convaincre. Et du côté des Mormons et des historiques d'Emmanuel Macron, donc notamment Olivier Véran et Gabriel Attal, ils sont très populaires au sein de La République En Marche seulement. Ils n'ont pas beaucoup d'électeurs et donc du coup c'est assez compliqué. Et d'où c'est pour ça que je rejoins la position de Benjamin Morel sur les députés. Ils n'ont aucun choix et donc du coup ils sont obligés de faire des annonces de circonstances en fonction des instants présents. Aujourd'hui ça peut être Gérald Darmanin qui est en vogue parce que c'est le plus médiatique. La semaine prochaine ça pourrait être Bruno Le Maire si par cas il porte un texte sur la réforme des retraites. Et ça peut être Édouard Philippe si par cas il joue autre chose. Et donc là on arrive à un rôle auquel je félicite la députée de La République En Marche qui est sur son premier mandat qui doit vivre un mandat assez compliqué dans la mesure où elle doit avoir des alliances qui changent toutes les semaines parce qu'il faut rappeler un point. C'est que elle est dans son rôle quand elle dit que La République En Marche est soudée avec Renaissance. Mais il faut se rappeler que le candidat du président de la République, Roland Lescure, à la présidence de l'Assemblée nationale, s'est fait battre, notamment parce que François Bayrou et Édouard Philippe l'ont fait battre.
Bon, on va le demander à Sabrina Agresti-Roubache. À Sabrina, vous vous sentez effectivement dans un rôle? Vous êtes prise entre deux feux
non,
ou vous êtes droite
non,
dans
écoutez,
vos bottes?
Non, moi je suis droite dans mes bottes. Pour ceux qui me connaissent, je suis évidemment porte-parole du groupe Renaissance, mais plutôt libre dans ma manière même de penser.
Et là, vous n'êtes pas langue de bois, hein, vous nous le promettez.
Non, promis, si vous lisez mon livre, moi la France, je la kiffe, vous verrez. J'ai dit certaines choses justement que M. T reprenait. Non, la chose est que maintenant, je pense qu'on a changé d'air. On a changé d'air. L'élection législative, vous savez, je regarde ce qui s'est passé même pendant la présidentielle. Le président a gagné à 58% et les Français, pourtant, lui ont donné une majorité relative. Mais dans majorité relative, il y a majorité.
Il y a aussi relative, Sabrina Agresti-Roubache.
C'est une évidence, mais ça serait super bizarre quand même de dire le contraire. Mais moi, ce en quoi je crois, c'est que ce qui peut souder les gens, contrairement à ce que certains pourraient penser, c'est l'adversité et la difficulté. Les gens se divisent. Regardez la dernière mandature, c'était super facile et pourtant, pour les anciens, ceux qui étaient déjà là sous le précédent mandat, me disaient qu'ils n'avaient jamais vu une telle cohésion d'équipe. Vraiment, moi je dis cohésion d'équipe, les gens se parlent plus, mais parce que aussi c'est plus resserré et parce que c'est plus dur. Et parce que tout le monde doit faire de la politique, on fait de la politique. Donc à un moment donné, on doit chacun accepter des choses qu'on n'aurait peut-être pas, ou qu'il n'aurait peut-être pas accepté il y a encore un an et demi. Donc moi, je crois au contraire, l'adversité va faire qu'on va resserrer les rangs, de fait, autour du président de la République, parce qu'il a un projet, vous avez parlé en introduction de son projet. Effectivement, toutes les lois que nous avons fait passer, le PLFR, le PLF, les textes sont passés, hein, 98% des textes sont passés assez, pas tranquillement, mais on s'est vraiment mobilisé et nous avons travaillé, nous avons discuté, nous avons fait des compromis. Et
avec même l'aide moi, des Républicains j'étais... notamment
Oui, mais avec l'aide des Républicains, mais à un moment donné, comment aussi je peux... Enfin, il y a aussi des gens de gauche, vous prenez des gens du PS, Madame Rabault, elle a voté aussi des textes avec nous. Donc, non, moi je pense que ça va dépendre aussi des sensibilités des uns et des autres, mais je pense que là, justement, ça va être passionnant parce que ça va être tellement difficile. Ça va être 5 ans compliqués parce qu'on a changé d'air, mais on a changé d'air dans tout. Les méga-feux, on n'avait pas prévu, la guerre en Ukraine, la crise à alimentaire, la crise énergétique. Enfin, qui aurait parié, là, nous cinq qui sommes là.
Le GIEC, en fait, hein, le GIEC aurait parié.
Voilà, exactement, le GIEC. Voilà, qui aurait parié que nous serions en train de discuter de cela. Donc, l'avenir est tellement incertain que je pense que ça va resserrer, mais même les Français, c'est-à-dire les efforts que l'on demande. Moi, je le vois sur ma circo, je le vois sur le terrain. Moi, je suis productrice, chef d'entreprise à la base, hein, donc j'ai l'habitude, je produis des documentaires sur la radicalisation, donc des choses quand même assez dures et assez des sujets de société. Les gens, quand vous leur parlez, tout le monde est prêt à faire des sacrifices, des efforts. Qui aurait pu penser qu'un jour, on nous demande une autorisation pour sortir, pour emmener nos enfants à l'école et que l'on accepte ? Personne. Nous cinq, je ne crois pas qu'une seule personne là aurait dit « mais bien sûr que les Français vont accepter » ou que le monde entier.
Mais c'est bien pour cela que les élections législatives ne vous ont pas donné de majorité absolue. Doit-on se poser une question là-dessus ? Si vous le permettez, Sabrina Agresti-Roubache, pour faire tourner la parole, parce qu'on est vraiment sur la dernière ligne droite de cette émission. Michel Taube, c'est révélateur de quoi tout cela en réalité ? Les Français, ils font des concessions, mais est-ce qu'ils sont enclins aussi à continuer et jusqu'à quand ?
Non, je pense que les Français sont aussi presque aussi contradictoires qu'Emmanuel Macron. Ils sont en même temps célébrissimes. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont à la fois réélu finalement assez largement Emmanuel Macron et tout en manifestant une très très grande colère en faisant élire 89 députés Rassemblement National. Personne ne les avait vus venir et c'est quand même ça doit inciter à une très grande humilité toutes les forces politiques plus classiques. Moi, je voudrais dire, il y a peut-être qu'Emmanuel Macron...
Rapidement, Michel.
Je pense effectivement que les députés de la majorité n'ont pas d'autre choix que de rester soudés parce qu'ils ont l'expérience des années Hollande où les frondeurs ont fait exploser la Hollandie. Donc je pense que tout va être fait pour l'éviter. Mais après, je pense qu'Emmanuel Macron nous prépare peut-être une très grosse surprise du chef à la rentrée avec son Conseil national de la refondation.
D'accord.
Qui peut-être est une manière de passer au-dessus du Parlement et des forces constituées de la nation avec peut-être des velléités, puisqu'il ne pourra plus être candidat à la présidence de la République dans 5 ans, d'essayer de refonder la République sur de nouvelles bases. Mais bon, ça c'est mon intuition personnelle, mais ça pourrait peut-être faire trembler la République de façon surprenante.
Moins d'une minute, William T. Un mot et Benjamin Morel également. William T.
Moi, je pense que les Français ont été en cohérence. Ils voulaient ni de Mélenchon ni de Le Pen, et ils voulaient qu'Emmanuel Macron incarne l'État. Pour autant, ils n'étaient pas d'accord complètement avec son projet. Oui. C'est pour ça qu'ils l'ont mis en majorité relative. Ils lui ont donné un mandat, notamment pour gérer les crises et notamment pour effectuer la transition. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron a été élu pour faire la transition comme Schröder en Allemagne. C'est son premier élément. Et deuxième point, les Français ont dit un message, n'allez pas à l'international, occupez-vous de nous.
Benjamin Morel.
Oui, je suis assez d'accord. On a un président qui est élu sur des circonstances de crise et qui donc, à partir de là, incarne cette lutte du pays face aux crises. En revanche, le Parlement est beaucoup plus représentatif de cette diversité de l'opinion. Et j'ai une petite divergence avec Michel Taube parce qu'en réalité, aujourd'hui, par exemple, le Conseil national de la Refondation, les grands projets peuvent difficilement passer au Parlement, tout bêtement, parce que vous avez justement un blocage des parlementaires. Et donc, si jamais vous voulez refonder sans majorité absolue, vous retrouvez en porte-à-faux. Et donc, Emmanuel Macron a plutôt intérêt à incarner l'unité et la stabilité de l'État et à laisser le Parlement beaucoup plus libre de ses mouvements.
La rentrée de tous les dangers, donc, mais vous reviendrez et nous en parlerons. Merci beaucoup, Benjamin Morel, William T., Michel Taube, Sabrina Agresti-Roubache. Merci d'avoir accepté mon invitation à suivre La France brûle, on ne vous apprend rien. Et on sera ici, dans ce studio, en direct, avec Éric Brocardi, le porte-parole des sapeurs-pompiers de France.